frères et sœurs, bonne année 2011, Dieu vous bénisse. Vous allez bien? D'abord, je voudrais remercier tout le monde pour la soirée que nous avons passée ensemble. C'était vraiment magnifique. Merci aux jeunes gens qui ont bien préparé toutes ces choses avec Mélo. Merci Mélo, merci tout le monde. Merci tout le monde. Parce que vraiment, moi j'ai bien aimé, c'était simple, mais c'était vraiment formidable. Et je pense que les jeunes ont dû se régaler de voir toutes les bêtises que nous faisions quand nous étions jeunes. Hein. Je dis ça pour ceux qui sont sur Internet, qui écoutent. Ma fille a été recherchée dans des vieilles vidéos d'il y a 30 ans en arrière, des trucs qu'on faisait tout au début de la communauté, quand on était encore des gamins. Et puis qu'on rigolait. Enfin, on rigole toujours chez nous. On n'est pas triste. Hein. C'était Camélia qui disait toujours un chrétien triste est un triste chrétien. Donc voilà, on avait bien compris la leçon. On n'avait pas besoin de nous l'enfoncer dans la tête. On aimait bien rigoler. Hein. Et on aime toujours. On est toujours bien joyeux. Et donc, vous voyez, les frères et sœurs, hein, quand on voit ça, on se dit, mais on voudrait que nos enfants soient sérieux. Mais comment voulez-vous avec des parents pareils? Donc voilà. Enfin, c'était jamais déplacé. C'était toujours quand même dans. C'était toujours bien. Bon, eh bien, ce matin, on va commencer cette année en lisant dans Jean chapitre 15, un long passage, chapitre 15, 1 à 17. Et ça va tout à fait dans le sens de ce que notre frère Alain nous a dit en dirigeant les chants pour la louange ce matin. C'est moi qui suis la vraie vigne et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte pas du fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne. Vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là apporte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se sèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai ainsi parlé pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, que vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous, vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous, vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Amen. Frères et sœurs, ce qui est passé, c'est passé. Et nous sommes dans une nouvelle année, 2011. Ça y est, on y est. Et Jésus veut imprimer une pensée dans nos cœurs dès ce matin, dès ce premier culte de 2011. Et voici cette pensée. Sur terre, vous êtes le lien avec le monde invisible et vous devez manifester le monde invisible. Vous devez l'attitude royale. C'est de manifester le monde invisible aux yeux de tous. Cette attitude que Dieu veut que nous ayons, elle nous demande deux choses. Elle est exigeante. C'est de la fermeté et de l'abnégation. Alors, je vous parlais vendredi soir de couper les pousses excessives. Et je vous racontais qu'en Suisse, on appelle ça les feuillages. Vous savez, moi, je suis né dans un pays de vignerons. Et une fois par année, nous avions les les vacances des effeuilles. Les vacances des effeuilles, c'était les gamins, on allait effeuiller la vigne, c'est-à-dire on allait couper tout ce qui... On allait émonder, on allait couper. Et pourquoi est-ce qu'on coupait? Ben, afin que la sève ne nourrisse pas inutilement des tiges qui ne servent à rien, mais qu'elle aille nourrir plutôt des bons fruits. Eh bien, nous avons aussi, nous, à tailler dans la profusion pour empêcher l'abondance de s'étouffer. Parce qu'il y a une différence entre la profusion et l'abondance. La profusion, c'est une grande abondance. La nature, elle est profusion. La nature. Je dirais même que la nature, elle produit trop. Il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait donner au sujet de cela. Je regarde une émission encore au sujet des tortues qui vont pondre leurs œufs, des milliers d'œufs, et sur ce millier, il y en a un ou deux qui s'en sortent et qui deviennent des tortues. La nature est comme ça. Hein. Vous n'avez qu'à demander à Stéphane ce qu'il pense du gazon du parc au château. C'est la profusion. Et s'il passait pas régulièrement à la tondeuse, enfin, en hiver, là, c'est bien, hein, ça ne pousse plus. On est tranquille. Mais s'il passait pas la tondeuse régulièrement, ben, ça ne serait pas le parc d'un château, ça serait la jungle. Bon, je sais, nos jeunes nous ont chanté « Le lion est mort ce soir dans la jungle, terrible jungle », donc ça va, mais quand même, je préfère voir où je mets les pieds qu'il n'y ait pas un lion qui se cache dans la broussaille qui mesure un mètre. Vous avez vu la profusion? C'est comme ça la profusion. Et cette année, vous allez devoir émonder, être ferme dans cette tâche, d'émonder, couper ce qui est de trop, couper ce qui ressemble à de l'abondance mais qui n'en est pas vraiment, couper ce qui est cette profusion sauvage, la nature, couper. Pour obtenir une sainte abondance, une saine abondance de fruits et non pas de feuilles, de broussailles. Parce que c'est vrai que c'est très impressionnant, hein? Toutes ces feuilles, toutes ces... C'est terrible. Mais Dieu veut des fruits, il ne parle pas de feuilles là, hein? Il parle de fruits. Alors, vous allez peut-être parfois ressentir de la tristesse. On ressent de la tristesse de temps en temps, mais c'est Dieu qui émonde. Et c'est très bien. C'est très bien, ça nous permet d'aller plus loin, faire des choses qu'il veut que nous fassions et que nous soyons libres. Et puis, il veut que nous fassions comme lui, que nous aussi nous prenions part dans cet émondage. L'équilibre, c'est une obligation. Dieu fait sa part, nous devons faire la nôtre. Pour vivre cette année, l'équilibre, c'est une obligation, c'est une invitation obligatoire, je dirais même, pour vivre vraiment à la gloire de Dieu. Vivoter. Mais nous voulons vivre à la gloire de Dieu, porter du fruit, porter abondamment, accepter que Dieu coupe, accepter que nous aussi nous avons à couper. Tout ça, c'est des contraintes. Mais voilà, il faudra conserver votre position en Christ dans l'Église, parce que nous avons une position en Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes, Éphésiens chapitre 1, ça c'est spirituel, mais nous sommes aussi assis dans l'Église en Jésus-Christ. C'est-à-dire dans une position, et nous devons conserver notre position en pleine lumière et de façon juste, de façon centrée. C'est-à-dire selon Dieu, en faisant consciemment sa volonté. Parce qu'on doit connaître sa volonté. Si on connaît sa volonté, c'est magnifique. L'autre jour, j'ai mis sur Facebook une photo de la communauté. Et alors quelqu'un a dit « Ah, c'est formidable, c'est pas très tendance, mais c'est formidable. » Pas très tendance, oui, c'est certain. Mais je dis « C'est surtout bon de savoir qu'on est dans la volonté de Dieu. » Pas très tendance. Dieu nous a dit « Vous êtes la lumière du monde. » L'a-t-il dit ou pas? Il l'a dit. Et nous devons nous positionner d'une façon parfaite pour éclairer le plus grand nombre possible. Le plus grand nombre possible pour illuminer notre entourage. Et aussi pour consumer d'en haut ce qui doit l'être. Le soleil à son zénith, il ne fait pas que d'éclairer, il consume aussi. Il y a des choses qui doivent être consumées. Dans l'évangile de Thomas, il nous est parlé de mouvement et de repos. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, notre position en Christ, c'est de manifester l'abondance et de maîtriser le foisonnement, la profusion, la maîtriser nous-mêmes. Bien sûr, Dieu fait sa part, mais nous avons à faire la nôtre. Alors, on dit c'est la crise mondiale, tout va mal, c'est affreux, c'est difficile, que nous réserve l'avenir, les gens sont inquiets. Et nous avons à manifester l'abondance. C'est-à-dire ce qui n'est pas visible. Ce qui est visible maintenant, c'est la crise. Bon, c'est vrai qu'il y a une abondance dans ce monde, c'est vrai, il y a une abondance. Mais elle se trouve, on le sait, dans des mains de personnages obscurs, dans des sectes secrètes, qui distillent cette abondance pour tenir les peuples dans leur soumission. Mais ce n'est pas de cette abondance-là dont je vous parle ce matin. Ce n'est pas de cette abondance-là que Jésus nous parle ce matin. Son abondance à lui, elle est invisible. C'est-à-dire, elle n'est pas vue par les aveugles. Ce n'est pas qu'elle est invisible, mais il y a des gens qui ne la voient pas. Ceux qui disent, nous sommes riches, nous n'avons besoin de rien. Hein, selon Apocalypse 3, 17, ce sont des aveugles. Et nous devons les éclairer, nous devons leur rendre la vue. Mes frères et sœurs, il ne faut pas en douter. Il y a la crise dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre source est ailleurs. Et les échanges entre le ciel et la terre, cette année, vont être fructueux. Je n'ai pas dit, le ciel va vous donner ici, à vous qui êtes sur la terre, d'une façon magnifique, abondante et fructueuse. Non. Je vous parle de la part du Seigneur et il dit la vérité, c'est un échange. C'est un échange. Il s'agit d'échanges. Les échanges entre le ciel et la terre vont être fructueux. Si tu fais consciemment, volontairement, intelligemment, spirituellement, la volonté écrite de Dieu, sans murmurer, sans hésiter, alors tu recevras en retour tout ce dont tu as besoin et même plus. N'est-ce pas ce que nous venons de lire exactement là dans Jean ? Bien sûr. Je n'invente rien. Je le dis simplement d'une autre manière. Mais c'est ce que le Seigneur veut que nous sachions pour nous cette année. Tu vas recevoir en retour tout ce dont tu as besoin et même plus. C'est une année de profusion. Alors il va falloir couper pour que ça ne soit qu'une année d'abondance. Dieu est le Dieu qui déverse sans mesure. Lisons, on va lire Luc 6, 30, si vous voulez bien avec moi. Luc 6, 30. C'est pas ça, c'est peut-être 38 alors. Oui, c'est ça. Donnez et on vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, serrée, secouée, est débordante. C'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous en retour. Hein? Donnez, on vous donnera, on versera dans votre grande poche, la grande poche de votre vêtement, une bonne mesure, serrée, secouée, est débordante. Le trop. Dieu est celui qui déverse trop. Mais il dit, car c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous en retour. Alors, vous voyez, il y a toujours ce côté, je te promets, mais voilà la condition. Je te promets, mais voilà la condition. 2011, une année pleine de jours, pleine de nuits, pleine d'heures, pleine de minutes. Une année avec quatre saisons pleines de secondes. Comment tu vas mesurer cette année? Comment tu vas mesurer cette année? De quelle mesure tu vas te servir cette année? N'oublie pas, il va y avoir un échange entre le ciel et la terre. Il va y avoir un échange. Quelle mesure vas-tu utiliser pour offrir à Dieu ce qui est juste, comme Abel avait fait? Quelle mesure tu vas utiliser? Parce que c'est avec la mesure avec laquelle tu mesures qu'on mesurera du ciel pour toi, pour te donner en retour. Alors il faut faire très attention à ça. Quelle est la mesure que tu vas utiliser? Vas-tu être timoré? Vas-tu être paresseux? Vas-tu être excessivement prudent? Vas-tu être méfiant? Vas-tu être pingre? Hein, qu'est-ce que tu vas? Et, tu auras des situations à mesurer pour savoir si elles sont prometteuses ou pas. Tu vas avoir des situations à mesurer pour savoir si ça va donner quelque chose de médiocre ou pas. Et parfois, tu vas devoir trancher. Tu vas devoir prendre des mesures. Est-ce que tu vas être sentimental? Est-ce que tu vas utiliser une mesure de sentiment importante? Bien sûr qu'il faut avoir une mesure de sentiment, mais il faut faire attention de ne pas prendre trop de mesures sentimentales de façon à ce que la vérité ne souffre pas. Dieu n'est pas un sentimental. Attention, au ciel, on va se servir de la même mesure que toi pour te donner un retour. Tu auras besoin d'inspiration, d'une inspiration qui vient du ciel, mais elles n'auront ces inspirations que la mesure dont tu te sers toi-même. Dieu n'y est pour Rien du tout. On dit toujours, Dieu est tout puissant, il peut déverser sur nous. Non, il le fera seulement dans la mesure où toi, avec la mesure que toi tu utilises pour vivre ici-bas et pour apporter à Dieu le service qu'il attend de toi. Dieu est tout puissant, mais il s'est limité volontairement par ses lois, des lois qui sont bonnes pour nous. Dieu n'y est pour rien, c'est simplement des lois. Il a créé ces lois pour que nous les utilisions au mieux de notre connaissance, pour que nous les utilisions en progressant grâce aux expériences qu'on fait. Et là, voilà, maintenant, on est quand même en 2011 maintenant. On a expérimenté beaucoup de choses avec Dieu. Alors, quelle mesure tu vas utiliser cette année? Dieu te rappelle que tu es de noble naissance. Dieu te rappelle que les gens qui sont de noble naissance mesurent large. Lui, il mesure large. La vie éternelle, dans le royaume de Dieu, c'est notre but. Et il faut aussi se souvenir que ce but, il est multiple. Parce qu'il y a plusieurs maisons dans la demeure de mon Père, il y a plusieurs. Quelle place est-ce que vous voulez? Il faut le décider maintenant et il faut le démontrer par la démonstration maintenant. Votre vie ici-bas, elle vous permet d'atteindre une place glorieuse selon votre mesure. Parce que la gloire, excusez-moi les artistes français là, mais la gloire pour un artiste français, ce n'est pas la même chose que la gloire pour un artiste américain. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a d'autres mesures. Eh bien, c'est la même chose ici dans notre vie chrétienne. Quelle mesure vous voulez utiliser? Quelle mesure vous voulez? C'est ça qui détermine la mesure de gloire que vous hériterez dans le royaume de Dieu. Cette place que vous aurez dans le royaume de Dieu, que Jésus est en train de vous préparer, sera le résultat de votre vie entière de droiture ici-bas. Elle sera à l'image de l'accumulation de prises de position empreintes de sagesse que vous aurez manifestées ici-bas. La place que vous allez hériter de gloire avec le Seigneur Jésus là-haut, elle sera aussi dans la mesure de la constante de la poursuite de vos objectifs. Est-ce que vous êtes constant ou est-ce que c'est en dents de scie? Est-ce que vous savez ce que vous devez faire? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous avez des objectifs? Est-ce que vous êtes constant? Alors, c'est vrai que quand on mesure large, ça coûte plus cher. Ce qui a de la valeur, ça coûte plus cher. Et puis, ça exige des efforts. Ça exige des efforts. Les jeunes qui veulent se payer des guitares, ils sont obligés d'aller travailler, hein, Samuel. Je ne sais pas ce qu'ils s'étaient payés, ce n'était pas une guitare cette fois, je ne sais plus ce que c'était. Mais bon, il faut bosser dur pour pouvoir avoir ce qu'on veut. Et si on ne bosse pas dur, on peut s'acheter une petite guitare à 2 balles. Puis si on bosse dur, on peut avoir quelque chose de plus conséquent, de plus important. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il y a plus... Ça dépend de la valeur que... Comment nous mesurons les valeurs? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de la valeur? Il y a beaucoup de valeur dans un non ou dans un oui. Parce qu'il y a du courage. La valeur du courage. Alors, il faut prendre maintenant la décision de ne pas dévier du chemin qui nous est tracé et qui nous mènera à notre but. Il faut prendre la décision. La décision. Le chemin de cette année, elle est remplie de rendez-vous obligatoires. Le témoignage que nous devons donner aux autres. Jésus a dit, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour parler en langue seulement. Bien sûr, c'est pour parler en langue. C'est surtout pour être des témoins. Nous avons à témoigner. Témoigner. Parler. Agir. Montrer la différence. Ne pas avoir honte du nom de Jésus-Christ. Témoigner. D'abord, pourquoi est-ce qu'on aurait honte de Jésus-Christ? Moi, j'ai remarqué, quand je parle avec les inconvertis, en général, c'est toujours eux qui m'en parlent en premier, de Jésus-Christ. Ils ont toujours un truc sur Dieu ou sur Jésus à dire, tout le temps. Pourquoi? Parce que ça prend une place terrible dans ce monde, Jésus-Christ. D'abord, on dit 2011 par rapport à quoi? À Jean Ferrat? À Yves Montand? À Michel Simon, comme dirait Raphaël? Non, à Jésus-Christ. Jésus-Christ, témoignez C'est un rendez-vous obligatoire pour vous cette année. L'assiduité aux réunions, l'étude de la parole de Dieu, la prière à vos autels. Je ne veux pas faire d'appel pour savoir qui a été fidèle tous les jours à l'autel, à son autel de prière. C'est important, mes frères et sœurs. Quelle mesure vous utilisez? Eh bien, c'est cette mesure que vous utilisez, que Dieu utilisera pour vous donner un retour. La prière du mercredi matin à 5h30, les dîmes, les offrandes, le service de 1 Corinthiens 15, 29, et tous les services communautaires, et le kilomètre plus. Tout ça, c'est des services nobles, et c'est des buts, c'est des rendez-vous à ne pas manquer. Alors, il nous faut faire preuve d'engagement envers le ciel, mais aussi engagement envers la terre, parce que nous sommes en lui dans le ciel, mais il est en nous sur la terre. Vous avez vu, tout à l'heure, on a vu dans Jean 15, il est en lui, nous sommes en lui, il est en nous. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Mais avec quelle mesure vous le laissez vivre en vous? Alors, invoquez le nom de Jésus-Christ dans votre vie chaque matin. Vivez avec la conscience éveillée que Jésus est présent avec vous, en vous, pour vous, pas contre vous. Si vous assumez votre rôle avec grandeur, les échanges seront fructueux en 2011. C'est la promesse du Seigneur. Si vous assumez votre rôle avec grandeur, les échanges seront fructueux avec le ciel en 2011. C'est la promesse du Seigneur. Ça tient à vous, pas à Dieu. Là, le plan de Dieu, c'est que ses brebis soient dans l'abondance. Ça ne tient pas à Dieu. Vous pouvez prier. Bien sûr, on peut prier, mais ça, c'est... Ne laissez aucun esprit de tristesse entrer en relation avec vous. Aucun. Mes frères et sœurs, Jésus nous dit que tout disciple accompli est comme son maître. Qui est votre maître? C'est Jésus. Eh bien, tout disciple accompli doit être comme Jésus-Christ. Il nous faut rendre cela visible aux yeux du monde, aux yeux de tous. C'est le plan de Jésus pour nous cette année. Rendez visible l'invisible aux yeux de la plus grande partie des gens du monde. Vendredi, je vous parlais du soleil à son zénith. Eh bien, il convient cette année que vous soyez comme le soleil à votre zénith. C'est quoi? C'est où votre zénith? Il faut que vous soyez au plus haut que vous pouvez être. Il faut que vous soyez le plus centré. Vous savez ce que c'est le zénith? C'est quand le soleil est droit en haut, qu'il n'y a plus d'ombre autour de nous. Eh bien, quand il est dans cette position-là, le soleil, il a une attitude vaste, c'est-à-dire que, wow, il éclaire tout, il n'y a plus d'ombre. C'est pour ça que quand on dit en Afrique qu'il fait 42 à l'ombre, mais quelle ombre? Celle qu'on fabrique. Ne fabriquez pas d'ombre. Une attitude en harmonie avec la vie, d'être le plus haut possible et le plus centré possible, centré en Jésus-Christ, dans une véritable vie spirituelle, dans une véritable communion spirituelle, dans la prière, l'étude de la parole, dans les services divins, tout ce que Dieu nous a donné de faire, faites-le avec fidélité. Alors, la vie au moment présent, fixée dans la vie au moment présent. Il s'agit d'une position, la position du disciple la plus juste. Et c'est à vous de décider la position centrale, la position élevée, la position équilibrée en Jésus-Christ. C'est à vous de décider. Au zénith, on est placé au meilleur de sa position. Et pour être la lumière qui illumine le plus grand nombre de personnes possibles, le plus grand nombre de situations possibles. Et en particulier, mes frères et sœurs, au zénith, nous sommes là où les gens lèvent les yeux pour chercher les choses de Dieu. Parce que les gens, quand ils cherchent les choses de Dieu, ils cherchent ce qui est élevé. Ils n'arrivent pas à imaginer qu'ils vont pouvoir trouver Dieu dans un truc à deux balles. Nous devons être un témoignage que notre Dieu est grand. Nous avons à révéler beaucoup de choses au sujet de qui est Dieu, de qui nous sommes. Des choses qui sont pour le moment invisibles aux yeux des humains qui cherchent, parce qu'ils cherchent en bas, parce qu'il n'y a personne qui brille en haut. Il faut briller en haut. Notre position, elle doit les interpeller. Notre témoignage doit les interpeller. Notre comportement doit les interpeller. Notre vécu doit les interpeller. C'est vous que les gens doivent regarder. Si ce n'est pas vous, c'est qui? Ils se sont donné une multitude de docteurs. Ils se sont donné une multitude de gens qui leur racontent. Vous allez dans une librairie, vous allez voir le nombre de bouquins, le nombre de trucs qui existent pour enseigner les gens. Comment avoir ceci, comment faire cela, comment devenir ceci, comment développer ceci. Les bouquins qui se vendent le plus sont des bouquins qui sont des plagiats de la Bible. Ce n'est pas pour rien. Nous, nous avons la Bible. Manifestons-la. Manifestons-la. Pourquoi est-ce que je dis que c'est vous qui devez l'être? Parce que jamais les gens verront Jésus plus près que quand ils vous verront vous, puisqu'il vit en vous. S'il vit en vous, s'il vit par vous, la plus grande chance qu'ils peuvent avoir pour rencontrer Jésus, c'est de vous rencontrer vous. Parce qu'il vit en vous. Il leur a été invisible jusqu'à ce jour. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut leur montrer Christ. Manifester son amour, manifester sa bonté, manifester sa fermeté, manifester sa vision, sa passion, son intégrité aussi, ses exigences aussi, son invisibilité, parce qu'il y a des choses que Dieu ne révèle qu'au roi, il ne montre pas tout aux gens du monde. Il y a des choses qu'il ne faut pas montrer. Vous savez ça? De peur qu'il ne les guérisse et de peur qu'ils ne se convertissent, vous savez ça? Faites attention, soyez sages, manifestez sa puissance miracle. Ayez une attitude royale, pas une attitude de roi dictateur qui domine et qui est nicolaïte, non, mais une attitude, quand je dis une attitude royale, ça veut dire une attitude noble. Une attitude noble. Et ça demande d'être ferme. Ça demande d'être ferme. Ça demande de renoncer à ce qui est petit. Ça demande de renoncer à ce qui est sans valeur, ce qui est minable, ce qui est peu honorable, ce qui est temporel, ce qui est... Alors que Dieu nous et vous bénisse. Que Dieu bénisse votre décision, ma décision ce matin, en ce 2 janvier 2011. Et qu'il scelle cette décision que vous prenez maintenant dans votre cœur par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous nous levons et nous prions notre Dieu. Seigneur, j'ai transmis du mieux que je pouvais le message que tu m'as donné, afin que mes frères et sœurs puissent comprendre les choses et se mettre à entrer dans le monde spirituel, dans les profondeurs spirituelles, dans les beautés et la richesse spirituelle, afin qu'ils puissent manifester cela, être comme la lune qui manifeste la lumière du soleil dans ses ténèbres. Je te remercie, Seigneur Jésus, de nous aider à manifester aussi ta lumière, à la montrer à ce monde, dans ce monde, à être soi-même éclairé, illuminé, pour pouvoir vivre clairement et avoir un comportement qui te glorifie. Aide chacun d'entre nous, aide chacun de ceux qui regardent les vidéos, aide chacun de ceux qui écoutent Internet et qui viennent régulièrement, bénis-les, qu'ils puissent prendre possession de cette promesse, mais aussi de ces conditions. Et que ce matin, ils prennent la bonne décision de te suivre fidèlement. Encore une année, et peut-être l'année prochaine dans la Nouvelle Jérusalem. Au nom de Jésus. Amen. Amen.